Very Good Cap Ferret. Evans.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir dans la Very Good Mobile, ici depuis le village de Piquet. Figurez-vous qu'aujourd'hui il se passe quelque chose d'un petit peu incroyable. La commune de Lèche-Cap-Ferret, telle que vous la connaissez, existe depuis 50 ans, parce qu'effectivement avant, le village du Cap-Ferret, ici où nous sommes, près de la célèbre pâtisserie Pâte à Choux, était une frontière. Il y avait d'un côté la ville de Lège, et puis il y avait aussi la grande ville de la Teste de Buch, dont le village du Cap-Ferret faisait partie, figurez-vous. Et il y a 50 ans, et bien effectivement, tout à fait officiellement, et bien Cap-Ferret a été restitué, ou collé en tout cas, à la ville de Lège. Et je suis avec Damien Plaza, qui va en parler beaucoup mieux que moi, parce que c'est un des historiens de l'histoire de notre belle presqu'île, et il connaît évidemment les détails historiques de l'histoire. Alors, à partir de là, cher Damien, bienvenue déjà à l'antenne.
Merci, bienvenue à toi.
Bravo pour l'organisation, parce que ça me paraît d'être un sacré barnum, donc il fallait quand même aller mettre tout en place. Déjà, pour faire simple, qu'est-ce qui est, avant d'entrer dans l'histoire elle-même, qu'est-ce qui était proposé aujourd'hui aux visiteurs?
Alors, il était proposé un petit circuit photographique et historique permettant de retracer l'histoire de chacun des villages de la presqu'île.
Très bien. Alors là, il y avait ça en termes de promenade, mais il y a eu plein de choses. Il y a eu une capsule temporelle, il y a des histoires aussi de totems. Expliquez-nous tout.
Alors le totem, je ne suis pas le mieux passé pour en parler.
D'accord.
Mais
c'est
la capsule...
pas le totem d'immunité
non,
de Koh-Lanta.
Non. En ce qui concerne la capsule temporelle, c'est un message qui a été élaboré par les enfants du conseil municipal des jeunes.
D'accord.
À destination de nos futurs habitants de Lèche-Cap-Ferret qui l'ouvriront d'ici 50 ans.
D'accord, donc les 50 prochaines années.
Voilà, donc un message à leur intention.
Très bien. Donc il y avait deux sites, il y avait effectivement l'arrivée là-bas du côté du front de mer, dans le village ostréicole de Piquet, pour cette capsule temporelle. Et donc il y a ici, à côté de l'église de Piquet, tout un site où il y a buvette, orchestre et chasse, et puis donc une expo dont vous étiez en train de nous parler.
Voilà, alors concernant l'expo à proprement parler que j'ai réalisé celle sur l'histoire administrative de la presqu'île.
Okay.
C'est-à-dire que je me suis intéressé spécifiquement, depuis deux siècles, à l'évolution administrativement de ce territoire.
Parce qu'au départ, sans vouloir ramener ma science, qui est au contraire sûrement défaillante, pourquoi la Teste de Buch? Parce que le capital de Buch, parce qu'au départ, le patron de la région, il était à la Teste.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'édification des communes en France date de la Révolution française, plus exactement de 1790.
D'accord.
Donc on met fin à l'Ancien Régime, et on met fin à l'Ancien Régime qui administrativement divisait la France en paroisses. C'est-à-dire que les communes n'existaient pas et que le responsable dans chaque village, c'était le curé en quelque sorte.
C'est pour ça qu'aujourd'hui encore en Louisiane, on appelle les comtés des paroisses.
Ah peut-être.
D'accord, ok.
Peut-être.
Ça fait sens.
Mais le curé était vraiment le personnage principal. Alors évidemment, dans le contexte anticlérical de la Révolution française, il était clair que l'administration allait passer sous le contrôle donc de l'État. Alors, on a décidé de créer des communes, on a créé des départements aussi, ne l'oublions pas. Et concernant ici notre région, c'est assez étonnant parce que justement des révolutionnaires vont s'inspirer de quelque chose qui avait été fait sous la royauté.
D'accord.
Qu'est-ce qui avait été fait sous la royauté? C'est le capital de Buch, tu l'as bien dit, le capital de Buch c'était le seigneur.
C'est ça,
de l'époque. Alors je ne vais pas entrer dans l'histoire très compliquée des capitaux, parce qu'à Lège on a aussi dépendu des capitaux de Buch à une période.
Un capital des
pas
capitaux.
Toujours, on dit un capital des capitaux. Mais on n'a pas toujours été sous la domination des capitaux. Il y a eu aussi des seigneurs de Lège. Mais on a été aussi sous la domination d'un certain capital. Voilà. Et alors, je passe tous ces événements-là pour en arriver à l'année 1779, c'est-à-dire 10 ans avant la Révolution française, où le capital de Buch avait reçu du roi Louis XVI la concession de planter en pin, en semis de pin, les dunes de la presqu'île du Cap-Ferret à un lieu particulier qui s'appelait les dunes du Bail.
D'accord.
Alors, j'en profite pour dire que c'est quand même le précurseur dans l'histoire de la plantation, de l'ensemencement en pin de notre presqu'île.
D'accord. Et non pas le fameux Brémontier, alors.
Alors, Brémontier est arrivé après.
D'accord.
C'est pour ça que Brémontier, bon, il y a un livre fameux de M. Sargos qui explique que Brémontier s'est attribué la gloire. Mmh. Évidemment, il a une gloire certaine, mais il a eu énormément de précurseurs.
Et voilà, oui, bien sûr, je connais
dont
leur
il
maman,
s'est inspiré.
La mère des Sargos.
Et donc, on a tracé une ligne droite issue de cet endroit où il était venu. Alors, je vous donne pas l'intitulé exact. Ça commençait à la cabane en bois brûlé jusqu'au grand coin. Bon, bref. Une ligne droite tout à fait artificielle, mais qui a servi de base juridique pour la création des deux communes.
Donc là, bah, on est dans la situation ancienne, et allons rapidement, parce qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire, tout le monde est très occupé aujourd'hui, mais cher Damien, quand vous avez étudié, parce que c'est votre passion, l'histoire de cette presqu'île, et pas que, vous avez étudié beaucoup de choses, est-ce que vous avez, vous, une raison précise du pourquoi du comment? C'est-à-dire que, en quelles circonstances a eu lieu justement cette rétrocession du Cap Ferré à Lège?
Alors, c'est pas une rétrocession. C'est pas une rétrocession.
Non, ça veut dire que ça nous aurait appartenu avant. Donc c'est pas le cas.
Voilà. Alors le terme, c'est rattachement.
Rattachement.
Sachant que le Cap Ferré a d'abord été la possession de la commune de la Teste, en fonction de ce que je vous ai dit.
Oui.
Mais que très rapidement, les ferricapiens ont eu des envies d'indépendance et d'autonomie.
Ah oui, les coquins.
Et le premier qui avait souhaité obtenir l'érection du Cap Ferré en commune autonome, c'était le monsieur Lesca.
Très bien, et oui.
Mais qui n'avait pas eu gain de cause parce que le maire de la Teste...
Celui qui avait reçu donc des terres de la part de Napoléon III de par sa récompense d'avoir participé au canal de Suez.
Ça, c'est une légende.
L'Esca
n'a jamais reçu de terres de Napoléon III. Il a acheté des adjudications. Voilà. Non, ça, c'est une histoire. Là,
incroyable.
Aussi, c'est une légende.
On ne va pas tout mélanger.
Non. Napoléon III n'a pas cédé de terres. Voilà.
Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui a la peau dure, pourtant.
Ah, mais il y a beaucoup de choses qui ont la peau dure sur notre presqu'île. Et l'historien que je suis essaie de convaincre.
D'accord, donc l'Esca n'est pas...
Voilà.
Reçu ça comme cadeau de la part de Napoléon pour
son
boulot au canal de Suez.
Non, il les a achetés.
C'est enregistré. Donc, de ce fait, quels sont les... Voilà, le faisceau de raisons qui ont conduit à ce rattachement.
Alors, les choses n'ont pas bougé beaucoup après cette demande qui avait été refusée, mais petit à petit a germé l'idée dans les têtes des ferricapiens, d'essayer de voir comment on pouvait mettre fin à cette ambiguïté qui faisait qu'il fallait aller de l'autre côté du bassin pour toutes les papiers administratifs.
Pourquoi à ce moment-là choisir un rattachement avec Lège et non pas l'autonomie d'un village du Cap Ferré autonome, j'ai envie de dire?
Alors, c'est bien ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a eu dans les années d'après-guerre le retour de cette volonté d'autonomie, mais qui n'a pas fonctionné.
D'accord. Faute de moyens, faute de...
Mais surtout par le refus de la Teste.
D'accord.
Bon. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'entre-temps, dans la période de l'entre-deux-guerres, le Cap Ferré avait été un enjeu de rivalité entre la Teste et Arcachon.
D'accord.
La Teste avait perdu Arcachon et ne voulait pas recommencer à perdre le Cap Ferré, alors que Arcachon, une fois constitué, voulait s'arroger la propriété du Cap Ferré.
Ah oui, tout le monde voulait, quoi.
Et oui, et il y a mieux que ça, c'est qu'on appelait le Cap Ferré, on l'appelait le Cap d'Arcachon.
Mais non.
Le phare du Cap Ferré, ça s'appelait le phare du Cap d'Arcachon.
Mais non. À quelle époque?
Ben, dans l'entre-deux-guerres.
Ah oui, donc.
Et ça a eu la vie dure, puisque les cartes de l'IGN en 1950 portent encore l'appellation de phare du Cap d'Arcachon.
D'accord.
Voilà. Et il y avait dans les journaux locaux le président de la Société historique de Pays de Buch qui avait mené campagne en disant mais le Cap Ferré dépend absolument d'Arcachon.
D'accord. Voilà. Très bien. J'aperçois Joël Confoulant, qui était également un historien émérite, qui est dans le secteur. Lui, il est plutôt basé sur Arès, mais il a beaucoup travaillé avec toi, non, je crois.
Ah non, nous n'avons pas travaillé ensemble.
Jamais?
Non, jamais.
Bon,
nous sommes d'ailleurs en désaccord sur un certain nombre
c'est
de points.
Ah putain, il fallait que je l'appelle alors.
C'est entre nous.
Bon, dommage.
Alors, en particulier sur la légende du village de Lège qui a reculé 4 fois devant les sables.
Et oui, voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez, les historiens ne sont pas ces gens paisibles que vous imaginez en train de tirer paisiblement sur une...
Joël Confoulant est géomètre.
Bon,
il a des compétences, effectivement, dans la question cartographique.
Ouais.
Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi, le géographe s'intéresse bien sûr à la cartographie. Il a fait un très bon travail cartographique.
Donc arrive ce fameux jour de 1976 où justement là, le Cap Ferré devient donc rattaché à Lège.
Tu vas vite en besogne parce que entre 1945 et 1959, il y a eu des quantités de tentatives. Pour s'ériger en commune. D'abord autonome, mais très rapidement rattaché à Lège.
D'accord.
Alors, là vient se greffer encore une des particularités du coin, c'est qu'il y a eu un empêcheur de tourner en rond dans cette histoire, ce sont les habitants du Canon.
D'accord.
Car les habitants du Cap Ferré voulaient être rattachés à Lège,
oui.
Mais les gens du Canon voulaient rester testerins. Mais non. C'est ce qui a empêché pendant longtemps que ça se réalise.
Ah, on comprend mieux pourquoi il y a toujours, encore aujourd'hui d'ailleurs, une sorte de rivalité entre les villages.
Toujours.
Et quelles étaient les raisons, on le sait ?
Alors, j'ai pas fini mes investigations, mais ce que je dois reconnaître, l'historien, tant qu'il n'a pas prouvé, il ne peut pas dire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un favoritisme dans l'équipement de la commune mère et du canon et du café.
Le canon était mieux soigné par la tête.
Ah ben bien sûr, la mairie annexe et l'école ont été d'abord construites au canon avant d'être construites au café. Ce qui fait que après la guerre, Sud-Ouest était entré dans le débat. Je le montre bien dans mon exposition où il montre un titre avec un titre provocateur. Regardez cette cabane, cette baraque plus exactement, qui était en fait le lieu où siégeaient l'école et la mairie annexe du café.
Voilà. Très bien.
Ça avait déclenché pas mal de évidemment de réactions.
Donc de nombreuses tentatives qui échouent et donc que se passe-t-il finalement ?
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un des éléments importants, ça a été en 1972, la MIACA, la mission intermissionnelle, interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, qui, rappelons-le, était chargée d'aménager touristiquement le littoral de la Pointe de Grave jusqu'à Osgore.
Ça inclut le fameux épisode dont on a fêté là aussi le cinquantenaire de 3 ans de la bataille du Mimbo.
Oui, indirectement. Mais bon.
Mais la MIACA était dans le coup.
Je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire. Parmi les projets touristiques, il y avait bien sûr la question du Cap Ferret et avait été émise la question d'un port au sud de la presqu'île. Mais, M. Biasini était bien au courant des revendications des uns et des autres.
C'était
le président, le patron de la MIACA. Et cette question du port au sud du Cap Ferret, elle a été mise un petit peu sous le manteau. Sauf qu'un certain nombre de promoteurs avaient été attirés par la question et avaient eu ce projet absolument diabolique de construire un port dans le Mimbo, dont vous connaissez la suite, la bataille du Mimbo. Bon, voilà. Mais cela dit, la MIACA avait prévu d'autres choses tout à fait étonnantes aussi, auxquelles on échappait, en particulier l'existence d'une marina entre l'Aige et le Grand Croc. L'existence du détournement du canal arrivant à Claouet. Donc il y avait eu un mouvement de protestation au Claouet de Claouayens qui s'étaient élevés contre un tel truc. Voilà, ça fait ça un truc.
C'est même, très simple.
Et même encore à l'époque, le projet d'une voie express jusqu'au Cap Ferret. Tu vois à quoi on a échappé.
Mais, sacré embrouillamini.
Embrouillamini total. Mais ce qu'il y a eu d'important à ce moment-là, c'est que M. Biasini avait inclus dans la même unité principale d'aménagement, puisque le littoral avait été divisé en 9 unités d'aménagement. Nous portions le nom de unité principale d'aménagement numéro 4, dans laquelle la presqu'île avait été mise dans sa totalité. Donc en fait, c'était la reconnaissance de fait par l'État d'une entité territoriale.
Effectivement, quand on rentre dans les détails de l'histoire administrative, quelque part, ça permet de comprendre tout,
bien
finalement.
Sûr, bien sûr.
C'est par la théorie qu'on découvre la pratique. Arrivons-nous déjà à 76 ou toujours pas ?
Oui, parce qu'entre 72 et 76, alors ça, j'ai intitulé ce passage-là digne de Cloche-Merle, parce qu'il s'est formé des associations dont le but était d'être plus féricapiens l'un que l'autre.
D'accord.
Voilà. Donc il fallait présenter, attention, parce que l'État avait bien fait les choses, il fallait élire une commission syndicale parmi la population qui allait représenter les intérêts des populations en vue de défendre la possibilité d'ériger, de séparer la commune. Donc les avis des communes et des conseils municipaux sont venus après.
D'accord.
Il y a d'abord eu, bien sûr, les consultations des populations.
D'accord.
Alors autant dire, c'est dit dans les tableaux, autant dire que pas mal de Légeois, pas mal de Testérins s'en moquaient totalement et que ça avait surtout concerné les populations féricapiennes et du canon.
D'accord, très bien. Alors ça, c'est quand même très important parce que nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une presqu'île qui s'appelle l'Aige Cap Ferret. La plupart d'entre nous, en tout cas, n'avons connu que ça. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le vivre l'Aige Cap Ferret aujourd'hui et le vivre Cap Ferret rattaché à la Teste de jadis?
Bon, alors là, tu touches le point sensible me concernant à moi, puisque je suis directement impliqué dans la chose par le biais de la question des clubs de football qui a été totalement liée à cette histoire administrative. Tu le sais certainement, après la fusion administrative, on a quand même conservé nos entités. Les deux clubs de football, l'un au Cap Ferret et l'un à l'Aige, ont continué d'exister. Il a fallu attendre 29 ans pour que ça cesse.
Je sais bien. Moi, j'ai fait partie du club de foot du Cap Ferret.
Voilà. Alors, très intéressant ce que tu m'as demandé, parce que Comme le disait très bien Robert Cazalet, j'ai retrouvé un discours de Robert Cazalet qui était
donc
le personnage.
Un des anciens maires de l'Eschkaferret.
Qui avait été concerné par la fusion.
Le premier maire finalement de l'Eschkaferret.
Le premier maire de l'Eschkaferret, sans être élu, parce que la fusion avait été faite avant l'élection municipale.
D'accord.
Voilà. Et il avait eu cette. Du moins, moi je l'ai interprété comme ça. Il voulait dire que l'union ne signifiait pas forcément l'unité.
D'accord.
Il avait très bien perçu que sur cette presqu'île, bien plus que la séparation qu'on disait entre le nord et le sud, on ne se voit pas, etc., etc., c'était plutôt une question identitaire de chaque village, qui cultivait chacun, à leur façon, leur propre identité, mais ça c'est parfaitement compréhensible. Alors quand on nous dit qu'il n'y avait pas de contact entre les Légeois et les Ferré-Capiens, dans les années 50, mais c'est totalement faux.
Alors, il y a un autre sujet, parce qu'on le mettra en public dans pas très longtemps, mais effectivement, il y a une constance, un fil rouge depuis de nombreuses élections municipales qui consiste à dire que, justement, on recherche l'unité de ces villages de la presqu'île de l'Eschkaferret. C'est même un objectif politique systématique que de dire qu'on veut recréer du lien.
Absolument, absolument. Mais je crois que les maires contemporains s'y sont bien pris. Hein,
oui.
Que l'on prenne Robert Cazalet, que l'on prenne M. Saint-Marcelli, que l'on prenne Philippe de Gonneville, ils ont tout essayé hein, pour essayer de Mais je crois que c'est assez réussi. Je crois que c'est assez réussi. Comme on dit, il n'y a que les gens bêtes qui ne changent pas d'avis. Il y aura toujours des gens hermétiques à tout changement.
Voilà, des jeux de mollets pour des gens bêtes.
Voilà.
Voilà. Donc, bon, ça, c'est toujours important de savoir d'où on vient et où on va. Est-ce que, justement, cette autonomie, enfin, en tout cas, cette nouvelle entité administrative qui est l'Eschkaferret, est devenue plus cohérente, plus puissante, plus économiquement viable? Est-ce que c'était la solution évidente et donc pérenne pour toujours?
C'était la solution évidente. Seulement, je le dis, et je l'ai dit à beaucoup de personnes depuis qu'on s'intéresse à cette histoire-là, on est guetté par un phénomène que l'on connaît, que l'on subit, mais qui, à mon avis, est préoccupant. C'est-à-dire que cette vie villageoise qui s'était installée avec le temps, ben, petit à petit, aujourd'hui, ben, on est victime un petit peu du succès, on va dire, français et mondial du petit Saint-Trope atlantique. Et petit à petit, le Cap Ferré est en train de perdre, petit à petit, ses habitants anciens.
C'est vrai.
Qui sont obligés de fuir. Pourquoi ? Hein, pour la cherté.
Déjà le prix.
Le prix. Mais aussi pour autre chose, c'est que la vie de village de l'époque a disparu. Les Ferré-Capiens avaient une vie intense de village,
c'est
comme
vrai.
Tous les villages de la presqu'île.
Toutes les photos sépia ou noir et blanc démontrent des rassemblements en plein hiver devant tel ou tel bar ou tel établissement.
Bien sûr.
Je suis maintenant effectivement un habitant du village du Cap Ferret depuis une trentaine d'années. Bah, ici passe quasiment rien. Quoi.
Voilà.
Et on a diminué en démographie considérablement.
Et donc d'un point de vue sociologique, c'est vrai que la presqu'île est complètement en train de changer. Mais le phénomène est en train de se déplacer vers le nord.
Oui.
Parce qu'il nous arrive exactement la même chose à Lège. Les enfants de Lège ont de plus en plus de mal à acheter. Alors, je sais que c'est le cheval de bataille de la municipalité, mais c'est vrai que c'est un chantier qui est aujourd'hui encore en cours. Voilà.
Donc, une aide bonne compagnie qui ne se quitte. Bien entendu, ce n'est pas aujourd'hui une émission dans laquelle on va absolument tout passer en revue. Mais simplement, si justement l'historien que j'ai en face de moi, Damien Plaza, que l'on va d'abord féliciter et remercier, parce que c'était un sacré boulot d'organiser ça, s'il avait justement un souhait, une projection à faire sur justement l'avenir, le devenir de la presqu'île de l'Eschkaferret, quel serait-il nanti des connaissances qu'il a?
Alors, un historien n'est pas un devin ni un prophète.
Non, mais il a des bases.
J'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Je le dis, je suis inquiet. Je suis inquiet par ce changement dans la composition de la population. Alors attention, je ne suis pas hermétique à l'arrivée de nouvelles personnes. La preuve, je collabore dans une association où il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'intègrent. Je suis inquiet par le fait qu'à un moment donné, le côté, on va dire, touristique l'emporte sur le côté vie sociale et vie des villages.
Je comprends.
Et je suis préoccupé aussi par l'avenir des ostréiculteurs, parce que c'est une profession. Moi-même, je suis fils de bûcheron, j'ai connu l'évolution du métier de bûcheron qui n'existe plus. On voit ce que c'est devenu. Je suis préoccupé par l'avenir des ostréiculteurs parce que c'est vraiment eux qui ont forgé l'identité de nos villages ostréicoles. J'ai vraiment beaucoup d'amis ostréiculteurs, c'est difficile. On est confronté à des difficultés d'ordre climatique, d'ordre de montée du niveau marin. Donc je suis plus inquiet qu'optimiste, mais je reste quand même, j'ai toujours au fond de moi une forme de philosophie qui fait que j'espère que les jeunes sauront relever le défi et conserver cette... C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs dans le message qui a été enfoui dans la capsule temporelle.
Secret. Bon, en tout cas, Damien Plaza, si vous voulez le connaître un peu mieux et que vous allez dans des archives, vous verrez un vieil exemplaire du journal Sud-Ouest dont le photographe avait saisi l'instant ce jour où les officiels étaient en train de dire qu'aujourd'hui, eh bien, la presqu'île de Lèche-Café est devenue une entité. Eh ben, y a un petit jeune homme là sur la droite de la photo qui est bien brun, qui a déjà une veste de costard. Eh ben, c'est Damien Plaza, figurez-vous. Il était témoin, il était présent le jour J lorsque ça s'est produit. Donc, sachez qu'il sait de quoi il parle. Damien, merci beaucoup.
Merci.
On va vous rendre, bien entendu, à cette organisation qui est ô combien exigeante, et puis vous êtes demandé un peu partout. Mais on se reverra et on aura l'occasion de développer certains des chapitres évoqués aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup, Damien. Merci à toi, et puis merci à ton assistant que je connais bien aussi.
Et bon anniversaire.
Merci.
Salut.
Events sur Very Good Cap Ferret.
Figurez-vous que je suis avec Madame la députée Sophie Panonacle de la circonscription, mais aussi le maire de Lèche-Cap-Ferret, Philippe de Gonneville, et le maire de la Teste de Buch, Monsieur Thierry Guéchaud, élu aux dressantes municipales. Donc déjà, bonjour Madame.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans cette camionnette. Je crois que c'est peut-être une première d'ailleurs.
Alors dans la camionnette, oui.
C'est ça. Philippe de Gonneville, bienvenue.
Bonjour.
Et puis bah, Thierry Guéchaud, là aussi c'est une première pour nous. Donc déjà, félicitations pour votre élection.
Merci.
Et puis bah, écoutez, merci aussi d'être là et de vous être montré très, très sportif parce que nous arrivons maintenant des discours officiels et nous avons eu la joie de pouvoir eh bien, voir que la ville de La Teste est très fair play et souhaite la grande chance à cette commune de Lège et Cap-Ferret et donc à ce village du Cap-Ferret. Très honnêtement, Philippe de Gonneville, est-ce que cet héritage est une grande responsabilité et pouvez-vous nous raconter rapidement les circonstances pour lesquelles cette scission a eu lieu?
Alors pour nous, c'est une chance, bien évidemment. Je rappelle un petit peu ce qui se passait autrefois. À la fin du 19e, début 20e, les Bordelais prenaient le chemin de fer pour aller à Arcachon. Prenaient le vapeur à l'époque d'Arcachon jusqu'à la jetée Bélisère et il s'appelait le relais du Cap. Et après, ils prenaient notre petit train pour aller jusqu'à l'océan voir le spectacle. Il n'y avait pas de route à l'époque jusqu'au Cap Ferret. Et ça avait tout son sens que le Cap Ferret appartienne à La Teste. Et puis les choses ont bien changé. Et effectivement, en 1976, le ministre de l'Intérieur de l'époque a décidé, avec un certain nombre de discussions, de négociations, de rattacher, et ça paraît cohérent sur le plan géographique, la partie sud de la presqu'île, c'est-à-dire de Grand Piquet jusqu'au Cap Ferret, à la partie nord qui allait de Lège jusqu'à Petit Piquet.
Alors, mais encore aujourd'hui, La Teste possède pourtant des villages un peu excentrés du centre-ville de La Teste. Vous avez encore la responsabilité du Pila, vous avez aussi bien sûr les fameuses cabanes chanquées. Qu'est-ce que vous avez des accès, je pense, aux archives de la ville de La Teste. Est-ce que c'était pour une raison purement administrative? Est-ce que c'était compliqué géographiquement? Est-ce que ça coûtait cher d'avoir un Cap Ferret un peu loin? Quelle était la raison principale de cette scission?
En effet, quand on relit Aristide Ichard qui a scellé par la signature en 76 le sort de La Teste de Buch et évidemment de Cap Ferret, ce qui est très intéressant quand on le lit, il dit justement, je le regrette 25 ans après, j'ai vu tout à l'heure, c'était très intéressant parce qu'il dit finalement Cazaux est très éloigné, Pila s'est éloigné aussi du centre, bref, on est dans la logique. Sauf qu'il y a un petit détail de différence, c'est qu'il y a juste un bassin avec un bras énorme, avec des courants, etc., qui séparent cette presqu'île. Oui. Et Arcachon aussi, la pointe, sachant qu'Arcachon a eu des yeux sur Cap Ferret aussi, à un moment. Donc, on voit bien que les atermoiements, moi je pense que les lignes de communication sont primordiales. Ça, c'est l'ancien militaire qui parle, mais pas que. Et il y a toute une cohérence, véritablement, je pense qu'il fallait se rendre à l'évidence. Et puis, il y avait aussi, moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant vraiment les archives, de la part de certains ferricapiens, le sens, alors pas tous bien sûr, mais d'être un peu délaissé par la Teste, trop loin, trop compliqué à gérer. Donc à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Il faut revenir sur des choses simples et la gestion, c'est important. Les gens ont besoin d'être occupés, les élèves en particulier dans les écoles, les gens allaient à l'école de Lège, donc quelques, ou même un peu plus loin. Donc La Teste, oui, encore aujourd'hui, il y a des testutes qui voudraient ce rattachement. Mais bon, je pense que le sens de l'histoire, il est là et je pense qu'on doit, même Monsieur Hichard, il n'a pas à avoir de regrets. Je ne crois pas.
C'est un petit cocktail de tout finalement. Il
exactement.
Y a une petite volonté locale aussi de récupérer le bébé. Sophie Panonac, en tant que députée de la circonscription, vous êtes un petit peu la maman de tous ces gens-là. Là. C'est vous qui regardez vos élèves dans la cour de récré s'entendre ou ne pas s'entendre. Quel est le regard justement de la représentante de l'État par rapport justement à cette fraternité entre les communes?
Alors la maman, je ne sais pas si le mot est très bien choisi, je ne suis pas convaincue. En tout cas, moi, effectivement, en tant que députée, eh bien, j'ai ce regard sur l'ensemble du bassin d'Arcachon, donc le Cap Ferré, l'Èche Cap Ferré, annexé, séparé, la Teste, Casopil, etc. Peu importe, je crois que c'est toutes ces communes qui sont autour du bassin, plus deux qui sont un tout petit peu éloignées, que sont Marcheprime et Mios, mais ne les oublions pas. Ça fait corps, ça fait cœur autour de ce plan d'eau, et je crois que c'est ça le bassin d'Arcachon, séparé, pas séparé, peu importe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment entendre ça. C'est ce collectif, c'est ce bassin d'Arcachon qui doit parler d'une seule voix pour avancer sur divers sujets. Je suis extrêmement sensible à tout ce qui est la protection de l'environnement, notre plan d'eau, je disais, la forêt, notre littoral. Et ça, c'est l'ensemble du bassin, quelle que soit la commune. La Teste et l'Èche Cap Ferré, je crois, sont les deux principales communes vraiment touchées par ces sujets. Hein,
bien sûr.
Forêt, érosion côtière, mais voilà. Moi, j'ai cette vision beaucoup plus globale et je suis vraiment ravie aujourd'hui. Je crois que je vais garder la photo en souvenir parce que faire cette photo en arrivant entre le maire de la Teste et le maire de l'Èche Cap Ferré, quand j'ai été élue en 2017, je n'aurais pas imaginé que ce soit possible. Eh bien, ah, ça oui. L'a été aujourd'hui. C'est vraiment, vous n'imaginez pas comme ça a pu me faire plaisir.
Comme quoi ?
Et comme quoi, 9 ans après, les choses ont évolué à tous les niveaux, même au niveau politique. Et je pense que c'est ça aussi qu'attendent les gens, qu'on puisse, que les élus ensemble puissent travailler, avancer, s'entendre sur des sujets importants.
Alors ça, c'est bien parce que ça m'a avancé ma prochaine question. Alors, dialoguez, s'il vous plaît, Philippe de Gonneville et Thierry Guéchaud, ensemble sur la prochaine question, parce que vous avez tous les deux votre point de vue, forcément. On parle des intercos. Thierry Guéchaud, tout à l'heure, disait... c'est une équipe, je viens d'arriver, mais je suis très content de faire partie d'une team finalement qui quelque part va prendre en main l'avenir de ce bassin d'Arcachon. Nous devons travailler ensemble, c'est un discours qu'on entend souvent. Et avec Philippe de Gonneville, nous avons souvent, notamment à l'occasion des campagnes électorales, évoqué justement l'évolution vers le sens des intercommunalités. Et donc justement, on est à la fois dans un système où on va de plus en plus se regrouper, et en même temps il va falloir garder nos identités. Alors on va faire comment ?
Alors moi, ce qui me frappe surtout, c'est que finalement, Thierry est président de la COBAS, je suis président de la COBAN, et c'est peut-être un signe, finalement, que cet anniversaire, ce rapprochement entre nos communes, se manifeste aussi par un rapprochement entre les intercommunalités. Et l'entente que nous avons également avec Bruno Bureau, qui est le président du Val-de-l'Aire, je crois, trace une route qui ne peut qu'être positive pour notre territoire bassin d'Arcachon. On s'entend très bien tous les trois. On a décidé d'essayer de mutualiser nos énergies de façon à ce qu'il y ait un bassin d'Arcachon, avec tous les enjeux, et Dieu sait s'ils sont nombreux, hein, et notamment les enjeux environnementaux. Et je crois qu'on est tous les trois sur la même ligne, sur la même vision. Et ensemble, nous allons construire pour l'avenir, puisque là, on se projette sur les 50 prochaines années, un bassin où il fera bon vivre, où on aura la résilience face à ce changement climatique et où on pourra accueillir aussi les populations en période estivale qui nous rendent visite, que ce soit chez Thierry ou chez moi.
Très bien. Vous en pensez quoi, vous, Thierry Guéchaud ?
Non, mais moi, je rejoins complètement ce que dit Philippe. De toute façon, depuis que je suis arrivé, moi, je n'étais pas dans le sérail politique. Mais très rapidement, on a créé un lien et ça s'est fait vraiment sans aucune ambiguïté dans la logique du pays Barval, du bassin d'Arcachon au Val-de-l'Aire. Et on voit bien que, même si ça peut paraître assez surprenant de mettre le Val-de-l'Aire dans le bassin d'Arcachon, et il y en a d'ailleurs qui peuvent décrier ça parfois, hein, ça arrive, hein, nous, on est dans cette cohérence. Et on voit bien qu'on a des cohérences entre cette plateforme du Val-de-l'Aire qui permet vraiment de la logistique et nous, ce bassin qui est au-delà du tourisme, de la forêt, de tout cet environnement... Du littoral, avec le CIBA où on a des vice-présidences. Moi, je suis dans la promotion du bassin d'Arcachon et Philippe est dans la partie littorale, c'est-à-dire dans vraiment s'occuper de tout l'ensemble. On voit bien qu'on est en train de se partager les forces parce que c'est vraiment la communion et ensemble qu'on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, les subventions, c'est compliqué. Financièrement, on voit bien que ça va être difficile. Donc, c'est bien ensemble qu'il faut arriver à fédérer tout en gardant, et je rejoins votre question, la facilité de chacun, parce que ce dont ont peur les anciens, très souvent, et on le voit dans le sport, dès qu'on veut faire des unions ou des fusions, c'est très difficile parce qu'il y a l'histoire.
C'est vrai.
Et ce peuple, ici, chacun a son histoire. Entre le canon, Piquet et compagnie, on voit bien qu'il y a eu des difficultés. À la teste, Cazot, alors là, avec Pila ou le centre, il y a des difficultés, elles existent encore. Il y a... Mais petit à petit, je pense que ça va s'éroder dans le temps et que les nouvelles populations qui arrivent dans notre bassin ou au Val de l'Air font que c'est en train d'évoluer vers une logique commune. Mais chacun garde son histoire. L'histoire, elle doit rester là. Il faut la célébrer. Et aujourd'hui, on le fait de la plus belle des manières ensemble.
Très bien. Sophie Panonacle, donc, la Teste est la plus grande ville du bassin d'Arcachon en termes démographiques. Sûrement, enfin, après, je n'ai pas les détails, mais économiquement, donc, vous devez représenter quand même une force assez importante. Donc, c'est plutôt pas mal qu'ils aient encore Cazot, le Pila et les Tchanquets, parce qu'ils gardent quand même dans le rétroviseur cette espèce aussi de désir de garder des trésors intacts, comme nous, à l'Eschcap-Ferré, nous sommes attachés à.
Mais bien sûr, vous savez, je fais un lien avec le sujet sur lequel on travaille actuellement à l'Assemblée nationale, c'est l'autonomie de la Corse. La Corse, c'est la Corse. Il faut quand même que Bassin d'Arcachon reste ce collectif avec le bassin versant qui est effectivement le Val de l'Air et notamment sur les sujets de qualité des eaux. Je crois que le Val de l'Air a totalement son rôle à jouer et une grande importance sur ce sujet-là. Et je voulais vous dire quoi, je ne sais plus.
Mais si, que quelque part vous aimiez ce bassin plus que tout et que chacun devait garder.
Voilà, je crois que c'est la force des identités aussi, voilà, qui fait le collectif. Mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'on efface chacun son identité, le caractère des Casalins, des Testus, des, comme je disais tout à l'heure, des Léjotes, Ferré-Capiens en patois. Voilà, ça, c'est tout cela qui fait le bassin d'Arcachon, comme ce sont toutes les identités au niveau national qui font la France également.
Là, on a la chance d'avoir quand même deux maires de communes plutôt importantes du bassin d'Arcachon, la députée de la circonscription. Est-ce qu'à tous les trois, vous êtes d'accord sur l'objectif principal? Vous êtes là ensemble, c'est l'occasion de vous le demander, quelle est selon vous la priorité, la chose absolue à mettre en place pour le bassin d'Arcachon? Je commence par vous, Sophie.
Moi, il y a deux points. C'est arriver à conserver les personnes, les habitants du bassin d'Arcachon. Alors quand je dis habitants du bassin d'Arcachon, bien évidemment, nous avons des habitants qui arrivent d'ailleurs à un certain moment de leur vie et qui choisissent de s'installer sur le bassin d'Arcachon. Je n'exclus personne, mais nous avons les habitants toujours, des familles du bassin d'Arcachon qui ont envie de continuer à y vivre, à y travailler, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et je crois que ça, c'est vraiment pour les originaires, si je puis dire, c'est d'une grande importance. Et pour ne pas perdre justement ces identités, il faut arriver à conserver là, ce patrimoine humain. Ça, c'est la première chose, pardon. Et la deuxième, c'est bien évidemment tout notre patrimoine environnemental qui fait aussi eh bien, notre particularité, qui donne ce caractère au bassin d'Arcachon. On doit continuer à poursuivre la préservation de l'eau du bassin d'Arcachon. On doit aménager notre territoire face à l'érosion côtière, face à la submersion. On doit protéger nos forêts, à l'Eschcap-Ferré, forêt d'exception, ça a quand même du sens. Et à la Teste aussi, continuer à protéger nos forêts. Voilà, c'est me semble, en tout cas, il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, mais si je devais en choisir deux, ce serait celle-ci.
Très bien. Messieurs les maires, d'accord avec ces deux assertions?
Alors écoutez, moi si vous voulez, j'ai deux mots. J'ai la résilience face au changement climatique et j'ai conservé nos valeurs. Les valeurs du bassin d'Arcachon, les valeurs de l'Eschcap-Ferré, les valeurs de la Teste. C'est extrêmement important parce que nous serons confrontés à des défis climatiques. Aujourd'hui, nous y sommes déjà confrontés à l'heure où je vous parle. Et puis, nous voulons également conserver notre identité, nos propres valeurs, les valeurs d'accueil bien évidemment, mais les valeurs de solidarité, les valeurs de notre territoire et notamment les valeurs patrimoniales et historiques.
Donc ça passe aussi, comme disait Madame la députée, par essayer de garder les populations, bien entendu.
Bien évidemment, dans les problématiques que nous connaissons, le logement, c'est les mobilités, etc., etc.
Thierry Guéchaud.
De toute façon, je vais ne faire que répéter, ou en tout cas peut-être d'une autre manière, mais moi je suis intimement convaincu que c'est bien cet équilibre entre vivre sur le bassin, le Val de l'Air, l'ensemble du pays du Verval, c'est comment y vivre avec notre histoire, bien évidemment, comment y vivre avec les nouvelles populations qui souhaiteraient venir, mais avec un environnement qu'il nous faut préserver. Donc ça veut dire automatiquement qu'il va falloir faire des choix et assumer pleinement une population. On ne peut pas aller jusqu'à une population surdimensionnée, ça veut dire qu'il va falloir accepter qu'on soit dans une cible, et pour l'instant on ne sait pas quelle est cette cible, en tout cas bien malin serait celui qui pourrait y penser, mais on ne peut pas remettre en cause cet environnement car il nous oblige.
et ce serait se tromper d'aller à son encontre. Ce serait se tromper.
Très bien, alors dernière question, parce que vous avez de nombreuses obligations, il fait un petit peu chaud aussi, et je ne veux pas vous bloquer. Mais c'est paradoxal, aujourd'hui nous fêtons donc 50 ans de séparation entre la Teste de Buch et l'Eige Cap Ferret, ou du moins la partie Cap Ferret de l'Eige Cap Ferret, et j'ai l'impression que les deux communes n'ont peut-être jamais été aussi amies, et ne sont jamais été aussi proches d'être sœurs. Donc on s'est séparés il y a 50 ans, mais c'est pour mieux se retrouver, on dirait, non?
Alors moi je vais répondre avant Philippe. Moi je pense que c'est une affaire d'hommes aussi, ou de femmes d'ailleurs entre guillemets, c'est une affaire humaine. Si on demande à certains testutes, à mon avis, ils ne seront peut-être pas automatiquement d'accord avec nous, mais je pense que l'aventure c'est aussi les hommes politiques ou les personnes politiques qui doivent agir pour participer à ça. Si on ne le fait pas, ça ne se fera pas de manière mécanique. Donc moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que j'ai accepté bien volontiers cette invitation qui me semble une évidence.
Oui, parce que c'est pas, comme le disait Philippe en rigolant tout à l'heure, le Cap Ferret n'est pas au-dessus de vos moyens.
Alors c'est vrai que moi je vois ça plutôt comme le 50e anniversaire de la création de la commune de l'Eige Cap Ferret plutôt que le départ du Cap Ferret de la Teste. Ça me paraît être une évidence géographique, mais c'est pas pour autant qu'il faut délaisser le bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble, il ne se décrète pas sur une commune, il se décrète sur l'ensemble du bassin d'Arcachon et des Vals de l'Aire. Et je pense que notre partenariat, notre amitié, bien elle va dans ce sens-là avec Sophie Panonac, la députée de la 8e circonscription. Il faut qu'on travaille tous collectivement, quelles que soient nos tendances politiques, de façon à créer un environnement où il fait bon vivre et où on laisse, et c'est le sens aussi du message qu'on a scellé aujourd'hui, qu'on laisse un territoire à la fois exceptionnel pour les générations futures, et que dans 50 ans, moi j'aimerais que le maire qui ouvre puisse dire juste un mot. Merci.
D'accord. Sophie Panonac, tout à l'heure, en concluant son discours, remercier la commune de l'Eige Cap Ferret, remercier la circonscription et la ville de la Teste, et remercier le pays. Donc je pense que je vais lui piquer sa conclusion, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas que l'anniversaire de 50 ans de l'Eige Cap Ferret, c'est aussi de la fraternité, donc, ou de la sororité entre deux communes, et puis c'est aussi donc une représentante du gouvernement, enfin en tout cas de la représentation nationale, qui est avec nous, et qui, elle aussi, est parfaitement amoureuse de cet endroit et dans ses capacités et dans ses prérogatives fait tout pour que tout se passe bien.
Eh bien oui, j'espère continuer. En tout cas, au niveau national, c'est ce que j'ai proposé dès 2017, apporter mon soutien à l'ensemble des maires de la circonscription, et je continuerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne sois plus là en tout cas.
C'est l'anniversaire de tout le monde. Bon anniversaire Sophie Panonac,
bon anniversaire
Philippe de Gonneville, et bon anniversaire Thierry Guéchaud.
Merci à vous.
Et joyeux anniversaire.
Merci Hervé.
Merci beaucoup.
Events sur Very Good Cap Ferret.